Bien, je vous remercie de vous être déplacé ce soir pour cette conférence que j'ai intitulée 1833, Nantes 1833, signée pour s'affirmer, hein, qui rentre donc dans le cadre à la fois de l'exposition que vous pouvez voir au rez-de-chaussée et puis un ensemble de manifestations autour de cette question de la signature. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste des métiers de l'imprimerie, etc. Je n'ai pas la science infuse. Donc, si vous avez des corrections, des informations, vous n'hésitez surtout pas à me corriger au besoin. Donc, en mai 1833, 75 ouvriers imprimeurs soutiennent par la plume le projet porté par quelques-uns d'entre eux de faire reconnaître par les autorités une association typographique et philanthropique, une association particulière, puisqu'en ces temps où il est interdit de former des syndicats, elle annonce qu'elle ne se cantonnera pas à apporter son soutien aux malades et aux vieux de la corporation, mais qu'elle pèsera de tout son poids pour empêcher les maîtres imprimeurs de la ville de fragiliser la situation sociale de leurs salariés quand le cœur leur en dit. Elle fut, pour certains, le premier syndicat créé en France, disons plus humblement qu'elle a ouvert avec d'autres à Paris, Lyon et ailleurs les chemins de l'émancipation des travailleurs. Alors par cet acte fort et courageux, par cette signature qui les expose aux représailles patronales ou policières, mais qui également leur impose un devoir, celui de la respecter, les typographes affichent leur unité et leur force qui semblent dire « Oserez-vous nous réprimer ? Et si vous nous réprimez, qui composera alors votre presse ?» Je suis le spécialiste des très longues introductions, donc je vais vous infliger une très longue introduction, vous allez le voir. Pour évoquer la condition ouvrière, notamment nantaise, permettez-moi de m'appuyer sur un document postérieur à la création de cette association typographique. C'est en effet en 1835 que le médecin philanthrope nantais Ange Guépin et son compère Charles-Eugène Bonamy publient une enquête économique, sanitaire et sociale sur la ville de Nantes. Influencés par les idées de réforme sociale, Guépin et Bonamy nous offrent une description des classes sociales, notamment ouvrières, de la cité des Ducs. Il parle des ouvriers aisés, qui ont des métiers pénibles, mais qui, je cite, « travaillent avec courage, parfois même joyeusement, parce qu'ils ne sont pas complètement privés de toute pensée souriante, parce que leur famille est vêtue et nourrie, parce qu'au retour le soir, ils trouvent du feu l'hiver et des aliments capables de réparer leurs forces. » Guépin et Bonamy ne leur opposent pas les ouvriers pauvres, comme si ce groupe social n'existait pas, mais un groupe qu'ils appellent « extrême misère ». De cet ouvrier misérable, Guépin et Bonamy nous disent que, je cite, « vivre pour lui, c'est ne pas mourir. Il ne prétend à rien, il n'espère rien. Leurs logements sont des taudis au sol malpropre et aux murs suintants. Si vous voulez savoir comment ils se logent, allez par exemple à la rue des Fumiers, qui est presque exclusivement occupée par cette classe. Entrez, en baissant la tête, dans un de ces cloaques ouverts sur la rue et situé au-dessous de son niveau. Une chambre sombre, grande, glacée, dont les murs suintent une eau sale. Entrez, si l'odeur qu'on y respire ne vous fait pas reculer. Une paillasse, une couverture formée de lambeaux frangés, rarement lavée parce qu'elle est seule. Quelquefois des draps, quelquefois un oreiller, voilà le dedans du lit. » Les enfants ? Eh bien, les enfants sont pâles, bouffis, étiolés, avec leurs yeux rouges et chassieux, rongés par des ophtalmies scrofuleuses, comme s'ils étaient d'une autre nature que ces jolis enfants si roses et si sveltes qui folâtrent sur le cours Henri IV. Après 20 ans, on est vigoureux ou on est mort. Guépin et Bonamy ne sont pas les premiers à avoir exploré le petit peuple travailleur nantais. En 1830, un dénommé Jean-Marie Maréchal, docteur, fondateur de la section de médecine de la Société académique, pourfendeur de l'homéopathie, ce charlatanisme, eh bien, Maréchal avait fait publier un premier tableau des décès de la ville de Nantes, dans lequel il notait l'importance des décès consécutifs à des fièvres pernicieuses, ataxiques, malignes et adynamiques, les gastro-entérites, les dysenteries en été, les affections de poitrine de l'automne, sans oublier les phtisies, autrement dit des tuberculoses, toutes maladies frappant plus durement que les autres les classes populaires. Pour l'anecdote, sachez que Jean-Marie Maréchal avait pour père un maître imprimeur. Dans ce monde bouleversé par la révolution industrielle et l'apparition des fabriques, le groupe formé par les ouvriers est donc pluriel. Il a au moins trois visages. Le prolétaire, qui cherche à vendre ses bras jour après jour et qui est contraint par la faim d'accepter les salaires qu'on lui offre et qui sont souvent indécents. L'ouvrier journalier, qui loue ses services à un même patron tous les jours contre un salaire, et l'ouvrier artisan avec qui le patron convient d'un travail à faire et le rémunère en conséquence. Dans ce dernier cas, la subordination à l'employeur est vécue et pensée comme temporaire, quand bien même une commande chasserait l'autre. Elle témoigne de la volonté d'indépendance du travailleur, de son refus d'une quelconque subordination à autrui. On parle de louage d'ouvrage ou encore, dans l'imprimerie, de louage en conscience. Cela signifie que la négociation, le dialogue, l'affrontement sont au cœur des relations professionnelles de nombre de métiers au XIXe siècle. Les ouvriers aisés dont parlent Guépin et Bonamy sont des ouvriers qualifiés, capables de monnayer leur savoir-faire, et les typographes sont du nombre. Avec leur esprit de corps affirmé, ils forment une aristocratie ouvrière, souvent pas très tendre d'ailleurs, avec ce prolétariat en haillons capable de se vendre à vil prix pour survivre. Et c'est du sein de cette aristocratie ouvrière que sortiront nombre de militants ouvriers de valeur, actifs au sein du mouvement républicain et socialiste. Pour le pouvoir, leur conscience professionnelle est une conscience de classe, ce qui les rend d'autant plus dangereux. Dans un rapport de 1813, adressé à Napoléon Ier, on peut lire ces mots « Cette classe indisciplinée ne jouit que dans le temps de la tourmente ». La vie ouvrière, au XIXe siècle, est ainsi une lutte permanente pour trouver les moyens de ne pas mourir de faim, de reconstituer sa force de travail. L'ouvrier consacre au minimum les 2/3 de son budget à la nourriture. Une nourriture qui se compose essentiellement de pain, de féculents, d'œufs et très rarement de viande. Que l'on appartienne à l'aristocratie ouvrière ou au prolétariat, en fait, on partage au moins une chose fondamentale, la précarité de l'existence. Rien ne protège de la misère quand on est un ouvrier même qualifié. Sans système de protection sociale, l'ouvrier est à la merci de l'accident du travail, de la maladie qui le couche sur le flanc, de la vieillesse qui le rend improductif ou d'une baisse de son salaire, conséquence des crises économiques. L'ouvrier est donc condamné à travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Dans la France d'alors, rien ne règle en fait les questions de salaire ou de conditions de travail, sinon la coutume et le rapport de force. Le travailleur vend ses bras et son savoir-faire, autrement dit, sa force de travail est une marchandise. Et pour le patronat, cette marchandise est une marchandise comme les autres, dont la valeur dépend de la loi de l'offre et de la demande. Le nombre de bras disponibles sur le marché de l'emploi ne peut que faire baisser les prix. C'est pourquoi les premiers syndicalistes s'efforcent d'imposer au patronat ce qu'ils appellent le tarif. Autrement dit, un salaire identique pour les salariés exerçant le même travail afin d'éviter qu'ils se fassent entre eux une mortelle concurrence. Comme l'a écrit Lamennais, le prêtre philosophe, on est en 1837, « Mieux eût valu pour l'ouvrier un complet esclavage, car le maître au moins nourrit, loge, habille son esclave, le soigne dans ses maladies, à cause de l'intérêt qu'il a à le conserver. Mais celui qui n'appartient à personne, on s'en sert pendant qu'il y a quelques profits à en tirer, puis on le laisse là. » À quoi est-il bon lorsque l'âge et le labeur ont usé ses forces ? À mourir de faim et de froid au coin de la rue. Nantes, ville de 80 000 habitants, compte en 1829 14 000 indigents. Depuis quelques années, la crise économique s'est abattue sur elle comme sur le reste du territoire. L'industrie nantaise des cotonnades est entrée en récession. Les raffineries de sucre de canne sont concurrencées par le développement de la betterave à sucre. La métallurgie n'en est qu'à ses balbutiements, tout comme l'industrie de la conserve alimentaire. Dans cet univers économique fragile, où la petite entreprise industrielle prédomine, les faillites sont légion. L'insécurité frappe donc au-delà du monde ouvrier. Passons à la situation politique. Le monde des exploités n'a jamais été docile. La Révolution française et sa proclamation de l'égalité des citoyens fit croire aux exploités qu'un meilleur sort était enfin à leur portée. Comme l'a écrit le journal L'Ami du Roi, les ouvriers qui ont entendu parler des droits de l'homme et des principes d'égalité sur lesquels la Constitution est fondée trouvent qu'il est très inconstitutionnel que leurs maîtres s'enrichissent à leurs dépens, tandis qu'ils ne reçoivent qu'un salaire très modique de leurs travaux. En juin 1791, la suppression des corporations, l'interdiction qui est faite aux différents groupes sociaux de se coaliser, a marqué les esprits ouvriers. Malgré la répression, la surveillance policière, le sentiment d'être un groupe singulier et d'avoir, au-delà de son savoir-faire particulier, un intérêt commun, commence à faire son chemin. En fait, ce qui fait peur au pouvoir, ce n'est pas que les travailleurs négocient avec les patrons les droits et les devoirs de chacun, mais que ces structures collectives se transforment en lieu de politisation et de remise en question de l'ordre social. La classe ouvrière fait peur. À Lyon, en 1831, puis en 1834, les canuts se révoltent. Ces ouvriers artisans, travaillant la soie, veulent que le tarif négocié avec les patrons s'impose à tous. Ils prennent les armes, affrontent les forces de l'ordre et proclament « vivre libre en travaillant ou mourir en combattant ». Ils récolteront du plomb et ces mots terribles du ministre de l'Intérieur, Casimir Perier, phrase remarquable, « il faut que les ouvriers sachent bien qu'il n'y a de remède pour eux que la patience et la résignation ». Pour le professeur Saint-Marc Girardin, la sédition de Lyon a révélé un grave secret, celui de la lutte intestine qui a lieu dans la société entre la classe qui possède et celle qui ne possède pas. Chaque fabricant vit dans sa fabrique comme le planteur des colonies au milieu de leurs esclaves, 1 contre 100. Aujourd'hui, les barbares qui menacent la société ne sont point au Caucase ni dans les steppes de la Tartarie, ils sont dans les faubourgs de nos villes manufacturières. À Nantes également, le début des années 30 est des plus tourmentés. Dans un contexte de crise économique aiguë, la petite bourgeoisie républicaine mêle sa voix à celle de la classe ouvrière. Deux personnalités fortes se dégagent de son sein. Le médecin saint-simonien Ange Guépin est le plus connu, au point d'éclipser d'ailleurs Michel Rocher, son aîné de 3 ans, ouvrier chaudronnier devenu maître poêlier, inventeur d'une machine à distiller l'eau de mer, républicain ardent et porté au socialisme. Lors de la crise de juillet 1830, ce qu'on appelle les Trois Glorieuses, du 27, 28 et 29 juillet, qui met fin à la Restauration, Rocher et Guépin jouent un rôle de premier plan aux côtés des ouvriers qui n'ont pas tardé à abandonner leurs ateliers dès qu'ils eurent appris que Paris était hérissé de barricades. Le 28 juillet, une foule hostile occupe le pavé nantais, fustige le gouvernement, provoquant en retour la riposte militaire. Près de 20 personnes sont arrêtées, illico incarcérées, mais cela donne de l'ardeur à la foule qui, dès le lendemain, plus nombreuses encore, descend dans la rue pour réclamer des armes et exiger la libération des emprisonnés. Alors que l'humeur semble être à la fraternisation, des coups de feu éclatent, provoquant une fusillade. À la fin de la journée, on relève près de 20 morts. L'hôtel de la Bourse est le cœur de l'insurrection nantaise. On y retrouve des ouvriers en armes et quelques petits bourgeois qui, comme Rocher et Guépin, sont acquis à l'idéal républicain. Les autres se sont éclipsés. Et comme l'a écrit un Parisien anonyme dans une brochure intitulée « Relations historiques des journées mémorables des 27, 28, 29 juillet 1830 », je cite « Les bourgeois étaient bien décidés à se défendre, mais à quelques exceptions près, sans sortir de chez eux ». C'est donc dans ce contexte bien particulier que les typographes nantais, travaillant dans les 6 imprimeries de la ville, Mélie des Malassis, place du Pilori, Victor Mangin, quai de la Fosse, l'imprimerie Hérault, rue de Guérande, Forest, quai de la Fosse aussi, Busseuil, Jeune, rue de la Fosse, et Merson, rue Charles X, eh bien c'est dans ce contexte bien particulier que les typographes se font entendre en 1833. Obtenir un juste salaire et surtout stable, telle est la revendication centrale des typographes qui se lancent donc dans un projet audacieux, la création d'une association typographique et l'établissement d'une caisse de secours mutuelle et de prévoyance sur la ville de Nantes. Le 12 mai 1833, à l'initiative d'une poignée d'entre eux et notamment d'un obscur J.P. Renoux, je ne connais pas son prénom, voilà, et il n'apparaît pas dans les archives, eh bien ils sont plusieurs dizaines à se rassembler clandestinement pour jeter les bases d'une association qui se dit philanthropique et proclame que l'union fait la force. De cette réunion, nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'elle permet à ces travailleurs de l'imprimerie de débattre collectivement, de corriger, amender les statuts de leur future association et de s'entendre sur un savoureux et admirable préambule qui aura cette tonalité lorsqu'il sera adopté lors d'une autre réunion le 26 mai. Voici le texte, écoutez bien, c'est remarquable. « Messieurs, nous le répétons encore aujourd'hui, le temps est venu où les ouvriers doivent s'entraider et se prêter au secours mutuel. Jusqu'à ce moment, la plupart n'avaient eu en vue que l'intérêt présent et personnel, et personne encore n'avait songé à l'état de vieillesse à l'avenir. Aujourd'hui, l'espérance d'un meilleur sort se présente, saisissons-le et disons au maître, nous n'envions pas vos fortunes, vos plaisirs, vos tables surchargées de mets exquis, non, mais un salaire capable de nous procurer un lit modeste, un gîte à l'abri des vicissitudes du temps, du pain pour nos vieux jours, après avoir passé notre jeunesse à remplir vos coffres. Nous vous demandons enfin votre amitié en échange de la nôtre. Oui, c'est de cette cordialité fraternelle que va naître notre bonheur et le leur, leur fortune et votre aisance. Car nos droits sont d'être traités avec justice et avec bienveillance de la part de ceux au profit desquels nous travaillons. Unissons-nous par des voies légales et d'une manière indissoluble, n'ayons tous qu'un intérêt et tous ensemble ne faisons qu'un. Portant toujours cette devise « vivre en travaillant ». Pourquoi ne nous assemblerions-nous pas pour parler paisiblement de nos affaires, de l'existence de nos familles et des intérêts de notre industrie? Pourquoi ce qui est permis aux maîtres nous serait-il défendu si nous sommes aussi paisibles qu'eux? Alors l'objectif de nos typographes étant de se faire accepter par le patronat local et les autorités, les revendications qu'ils portent ne peuvent être que modestes. Un salaire suffisant pour offrir à chacun un lit modeste, un toit convenable, un peu de pain pour les vieux jours. la recherche de la concorde sociale reposant sur le respect mutuel, la bienveillance des maîtres, est au cœur de leur démarche, de même que leur volonté d'obtenir une sorte d'égalité de traitement. Si les maîtres ont le droit de se réunir pour parler de leurs affaires, eh bien, pourquoi diable les ouvriers n'en joueraient-ils pas ? Certes, on peut noter que ce préambule rappelle un brin sarcastique, que les typographes ont passé leur jeunesse à remplir le coffre des maîtres, mais pour le reste, le ton se veut paisible. Ce que réclament les typographes, eh bien, le droit de vivre de leur travail, tout simplement. La révolte est peut-être dans le cœur de certains, mais dans leur masse. Les typographes n'ont guère le couteau entre les dents. Ils ne songent pas à renverser le système. Ils revendiquent le droit d'y vivre à une place conforme à leur qualité d'ouvrier qualifié, respecté et respectable. En lisant l'intervention, sans doute de Renou, lors d'une réunion tenue quelques semaines plus tard, le 1er septembre exactement, à un moment où nos typographes attendent de savoir si le pouvoir central ou préfectoral va tolérer leur existence, on peut y lire que l'association typographique, encore balbutiante qui est la leur, est une des plus influentes de toutes celles qui existent ou qui peuvent se former, tant pour l'éducation des membres qui la composent que pour leur caractère et le rang qu'ils tiennent dans la société. Le typographe incarne cette aristocratie ouvrière qui occupe une noble profession. Il fait partie, je cite, « des bons ouvriers, probes en général, dévoués à leurs amis, bien tenus de leur personne, propres dans leur intérieur, élevant avec sollicitude une famille nombreuse ». Ça, c'est du Guépin et du Bonamy qui écrivent ça à propos des typographes. C'est un ouvrier capable de parler d'égal à égal avec un maître. Même salarié, il voit moins dans le dit maître un patron qu'un donneur d'ouvrage. C'est pourquoi il place l'éthique, la conscience professionnelle, au cœur de son activité et de sa pratique sociale. Parce qu'il fait partie de l'élite ouvrière et qu'il en a conscience, il a un code d'honneur et il s'y tient. Ce 1er septembre, Renou rappelle qu'ils entendent acquérir l'estime et la confiance des chefs. « Fais ce que tu dois, advienne que pourra ». Autrement dit, sois un travailleur consciencieux, irréprochable, ne donne pas d'argument au maître pour qu'il refuse la main qu'aujourd'hui tu lui tends. Quand on verra un typographe, on pourra dire « voilà un bon citoyen, un bon père de famille, un bon époux, un bon fils, en un mot, un homme estimable ». Il n'y a pas de place dans cette association typographique pour celui qui fréquente plus que de raison les cabarets et à l'occasion les femmes de petite vertu, au nombre de 600 si l'on en croit Bonamy et Guépin. L'article 35 des statuts prévient « aucun secours ne sera accordé pour cause de maladie provenant d'inconduite ». Le typographe, homme estimable, se doit de donner l'exemple. Le contrôle du groupe sur chacun n'est pas perçu comme une intolérable atteinte à la liberté individuelle, mais comme une nécessité pour l'émancipation collective. Donner l'exemple dans le privé comme dans le public. Ayons pour gouverne, pour conseil nos statuts qui sont notre œuvre et notre havre de paix. Le typographe associé doit les respecter scrupuleusement, quoi qu'il lui en coûte. Ces statuts, écrivent-ils, sont une boussole qui oblige solidairement. Autrement dit, elle implique de cesser le travail dès lors qu'une pratique patronale ne respecte pas ce que les statuts ont posé comme principe. Et parmi ceux-ci, le plus essentiel, j'en ai parlé tout à l'heure, est le respect du tarif, autrement dit, du prix fixé pour la réalisation de telle ou telle tâche. En juillet 1895, le respect du tarif, quoi qu'il en coûte, sera encore au cœur des discussions. Écoutez plutôt. Monsieur le Président demande des explications au confrère Jameau de l'imprimerie Salière au sujet d'un jeune ouvrier qui ne travaillerait pas dans les conditions voulues dans notre tarif. Le confrère Jameau donne ses explications et dit que le patron est prêt à congédier ce jeune homme, mais que c'est par mesure humanitaire qu'il l'a conservé. Plusieurs de nos confrères font observer que le patron est dans son tort et qu'il doit lui donner le prix ou le congédier. Finalement, en fait, il sera décidé d'envoyer une délégation chargée de convaincre M. Salière de respecter sa signature, autrement dit, de respecter le tarif. Ça, c'est un extrait que j'ai sorti des comptes rendus de réunion de l'association typographique, puisqu'on a au CHT l'essentiel de leur, je crois même tous, les comptes rendus, donc sur quasiment 60 ans, des comptes rendus de réunion. Mais vous voyez, en 1895, cette question du tarif, elle est importante. Et dans cette affaire-là, particulièrement, a priori, ce jeune homme n'est pas un très bon professionnel. Et qu'il semble visiblement, selon le syndiqué qui s'exprime, que, en effet, le patron, c'est par mansuétude qui continue à le conserver, etc. Mais bon, comme il n'arrive pas à produire comme les autres, etc., il ne le paye pas au tarif. Eh bien, on lui impose de respecter le dit tarif. Donner l'exemple passe également par la conservation du décorum et la grande rigueur dans l'animation et la gestion quotidienne de l'association. On ne badine pas avec la discipline. L'heure, c'est l'heure. Un compte-rendu de réunion de 1861 nous apprend ainsi qu'une partie des administrateurs de la société, arrivés après l'appel, ont dû s'acquitter d'une amende de 25 centimes. Les membres qui n'ont pas prévenu de leur absence devront s'acquitter la prochaine fois d'une amende de 1 franc, y compris M. Bourgeois, qui a dû précipitamment quitter la ville pour se rendre au chevet de son fils malade. Les typographes n'ont fait ici que respecter les statuts de 1835, plus précisément les articles 27 et 28, relatifs aux absences injustifiées et au retard. Il est même prévu la possibilité de sanctionner, je cite, « celui qui s'absentera pendant la délibération de l'Assemblée, dans le but d'entraver la discussion ou empêcher une proposition d'être adoptée ». Ce point est intéressant, car cela veut dire que certains typographes ont certainement de l'expérience dans l'organisation et l'animation des structures collectives. Ils savent bien que le meilleur moyen de ne pas faire voter quelque chose, c'est peut-être de disparaître à un moment donné, etc. etc. Donc là, ils précisent les choses. Plus intéressant encore est l'article 30. Celui qui, par l'indiscrétion, dévoilera ce qui se passe dans l'association, sera passible d'une amende de 50 centimes. Cette amende sera d'un franc s'il s'agit d'un rapport fait à un étranger. La peine de l'exclusion pourra même être prononcée s'il est suffisamment prouvé que le contrevenant ait eu pour but de compromettre l'existence de l'association. Certes, me direz-vous, cette précaution est indispensable dans le contexte de la France d'alors où toute association ouvrière est suspecte de visée républicaine, donc séditieuse. Certes, mais Renou place la nécessité de la discrétion au-delà de la simple volonté de préserver l'association de la répression. Écoutez-le. « Je sais, et on ne peut le dissimuler, l'âge, le manque d'expérience et plus souvent encore les occasions ou la force de quelques habitudes nous font oublier ce que nous sommes et ce que nous devrions toujours être. Mais au moins, si nous ne pouvons commander à nos passions, si nous ne pouvons toujours être en garde contre nous-mêmes, tâchons au moins que cet oubli d'une conduite régulière soit autant que possible connu que de nous ou de ceux qui peuvent ou qui ont intérêt à cacher nos écarts. » Pour Renou, les désaccords, les controverses, les éclats de voix doivent demeurer secrets, n'être la propriété que des seuls sociétaires. De même, pas question de s'épancher un verre à la main dans une taverne quelconque. Il en va de la réputation de la société et de ceux qui la composent. L'élite ouvrière est une élite militante chargée d'ouvrir la voie aux autres corporations. Irréprochable. Tel doit être donc le typographe de 1833. Pour bien mesurer l'exigence morale requise pour faire partie de la société, projetons-nous en 1848. Le 6 mai 48 s'est tenue la traditionnelle fête patronale et le compte-rendu qu'en fait l'association est dithyrambique. L'ambiance fut chaleureuse et fraternelle. Mais, lors de l'Assemblée générale du 15 juin, un membre souligne que certains sociétaires, s'oubliant dans des discussions assez vives, ont compromis la tenue qui, d'ordinaire, distingue nos réunions. Il est alors décidé de modifier le règlement afin de rendre accessible l'entrée de notre société à tous ceux de nos confrères dont la moralité sera reconnue. Une commission est même mise en place pour veiller à cela, d'autant plus que 10 typographes ont fait part oralement de leur intention d'adhérer. Il est décidé d'indiquer officieusement à ces candidats qu'il leur revient de faire une démarche écrite en ce sens. Lors de l'Assemblée générale du 7 juillet 48, la question de cette adhésion est de nouveau posée en des termes qui en disent long sur l'image que les sociétaires entendent donner de leur institution. Je cite « Un membre donne lecture d'une lettre de demande signée de 10 typographes. La commission, prenant tout d'abord cette demande en considération, a voulu prouver par là que son intention bien formelle était d'ouvrir plus largement les portes de la société à tous les typographes, se basant sur notre maxime fondamentale « l'union fait la force ». Elle a pensé aussi que c'était donner au dehors une plus haute idée de sa puissance, persuadée qu'elle a été que si de nouveaux abus devaient être créés, il trouverait une barrière infranchissable dans ce nouveau faisceau de sociétaires. Voilà quelle a été sa première pensée. Mais messieurs, vous lui avez donné une plus grave mission, celle d'examiner ce qu'étaient ces hommes qui se présenteraient à votre acceptation et ce que la société devrait faire à leur égard. D'avance, dans notre dernière réunion, la majorité, la presque unanimité même, avait déclaré qu'on ferait un oubli de la conduite typographique antérieurement tenue par quelques-uns. La commission, fidèle au principe de fraternité qui nous régit, ne s'est point longtemps arrêtée sur ce chapitre. Elle a voulu complètement oublier. Quoi qu'il en soit, messieurs, tout en étant large et clémente dans ses décisions, la commission n'a point oublié qu'elle ne devait point forfaire à l'honneur et à la dignité de la société. Et elle a voté d'urgence, conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de nos statuts, que la société n'admettrait dans son sein que des hommes de bonne vie et mœurs. En un mot, que des hommes d'honneur, auxquels on peut sans rougir serrer la main dans quelques lieux qu'on les rencontra. C'est donc surtout sur le point de moralité que la Commission a le plus religieusement prêté son attention. Apporter un secours aux associés malades, blessés ou incapables de travailler à cause de leur âge avancé, ainsi qu'à ceux qui seraient forcés de cesser de travailler pour cause d'intérêt général, prendre en charge une partie des frais d'obsèques d'un sociétaire, fournir une indemnité aux typographes contraints de quitter Nantes, voire apporter un soutien financier aux ouvriers soumis au chômage partiel, telles sont donc les missions fort louables que se fixe l'association nantaise. Si nos typographes s'étaient arrêtés là, gageons que le pouvoir aurait vu d'un bon œil cette prise en charge par les travailleurs eux-mêmes de leur destin social. Mais voilà, nos typographes nantais ont ajouté dans leurs statuts initiaux un article, le 13e, dont la lecture ne peut qu'effrayer les maîtres imprimeurs et les autorités. Je cite. S'il advenait qu'un ou plusieurs maîtres imprimeurs voulussent diminuer les prix sans le consentement de leurs ouvriers, il serait donné à ceux-ci des moyens d'attendre la reprise des travaux au prix premier. S'il advenait encore qu'un ou plusieurs maîtres imprimeurs voulussent introduire des usages ou règlements contraires à ce qui existe, les sociétaires qui s'y refuseraient et qui, pour ce refus, seraient renvoyés, auront droit au soutien de la société. Il y aurait à cet égard une assemblée générale pour délibérer sur le montant de la somme à donner par jour à chaque sociétaire. En d'autres termes, l'association annonce qu'elle est prête à promouvoir la grève d'un côté et à mettre en place une caisse de grève de l'autre. L'association philanthropique des typographes n'est donc pas seulement une société de secours, une société de bienfaisance, elle est également, avec cet article 13, une société de résistance. Rédigé ainsi, l'article 13 ne peut être accepté par les patrons et les autorités. Nos typographes devaient s'en douter, et sans doute, sous la pression ou les conseils, allez savoir, les voici qui corrigent leur prose. Je livre à votre sagacité la réécriture subtile de cet article 2 ans plus tard. L'article 13 est devenu l'article 75 des statuts finalement adoptés en 1835. S'il advenait que, contrairement à l'article 414 du Code pénal, délit de coalition patronale, plusieurs maîtres voulussent diminuer le prix de main-d'œuvre ou établir de nouvelles obligations nuisibles aux intérêts des ouvriers, le tout sans leur assentiment, les sociétaires qui s'y refuseraient auraient droit au soutien de l'association. Autrement dit, l'association fournirait un pécule à ceux qui refuseraient de travailler sous un tarif inférieur. Mais aussi, et conformément à l'article 415 du même code, délit de coalition ouvrière cette fois-ci, les sociétaires ne pourront prétendre à aucune augmentation de prix de main-d'œuvre ni imposer de nouvelles obligations aux maîtres imprimeurs sans le libre assentiment de ces derniers. Nos typographes se livrent là à un bel exercice d'équilibriste afin de montrer qu'ils respecteront la loi et qu'ils entendent bien que leurs employeurs fassent de même. Alors revenons à l'été 1833. La fusion en juin et juillet 33 des imprimeries Mangin et Busseuil leur donne l'occasion de se faire société de résistance en acte. Si Mangin applique le tarif qui a cours à Nantes, Busseuil est beaucoup plus rétif et cherche à se soustraire à la règle. Le samedi 13 juillet, il diminue sans avertissement le prix d'impression d'un bordereau. En riposte, les ouvriers imprimeurs refusent de gagner leur poste de travail. Le lundi suivant, les 30 ouvriers de l'atelier font la grève sur le tas, exigeant que le bordereau soit payé à son juste prix et que Busseuil s'engage par écrit à respecter le tarif. Et c'est ce qu'il fait. Les typographes gagnent ainsi leur premier combat et, comme le souligne le président Renou, l'ordre fut rétabli et chacun retourna à son poste. Il ne tarde évidemment pas à faire connaître par écrit aux imprimeries de la région nantaise qu'il est possible, par l'action, d'obtenir des maîtres le respect des us et coutumes pris de composition, d'impression et de conscience, tels qu'ils existent dans les diverses imprimeries de cette ville depuis de longues années, et de n'approuver ni accepter les changements qui pourraient nuire à nos intérêts, ni permettre qu'aucun de nous ne déroge en rien de ce qui est établi. Une seule solution donc, l'organisation. Le maire de Nantes, Ferdinand Favre, industriel qui fait son beurre avec la vente d'un engrais qui s'appelle le noir animal, vous en avez entendu parler du noir animal peut-être ? Hein, résidu de sang de bœuf et de sucre. Eh bien, le maire de Nantes, lui, il n'est pas hostile a priori à l'initiative des typographes, à la condition évidemment que ceux-ci permettent à ses services d'avoir un œil sur la comptabilité de cette association. Parce que les ouvriers sont toujours soupçonnés de ne pas savoir gérer. Les pauvres sont imprévoyants par nature, car s'ils ne l'étaient pas, of course, ils ne seraient pas pauvres. En revanche, le préfet, lui, est beaucoup plus circonspect. Il faut dire qu'à Nantes, comme ailleurs, d'autres corporations, les cordonniers, les tanneurs, les tailleurs, ont lancé des démarches similaires et qu'à leur initiative, on retrouve des travailleurs connus, pour leur sympathie républicaine et les idées séditieuses. Voulant se garantir, le préfet, qui s'appelle donc Maurice Duval, s'enquiert au mois d'août de l'avis du ministre du Commerce, qui s'appelle Adolphe Thiers, hein, et que Marx appellera le nabo monstrueux, pour ses faits d'armes, notamment pendant la révolte des Canuts. Et également, il demande au ministre de l'Intérieur, Antoine Dargout, de se prononcer. Vient le mois de septembre, et de nouveau, l'imprimerie Mangin et Busseuil est sur la sellette. Mécontents du licenciement de trois d'entre eux, une vingtaine d'ouvriers ont claqué la porte de l'entreprise et, pire, fait en sorte que leurs anciens employeurs ne trouvent personne pour les remplacer au pied levé. Cette mise à l'index irrite Mangin et Busseuil, qui parlent de conspiration et préviennent qu'ils demanderont à la justice de blâmer les coupables. Dans un courrier au maire, Mangin écrit « Ce matin, tous nos ouvriers sont partis et cette coalition est cause que mon journal, l'ami de la charte, d'aujourd'hui, avec la date de demain, mardi, ne paratera pas. Notre établissement se trouve ainsi paralysé. Nos ouvriers se fondent sur le règlement de la société typographique que tous les ouvriers de Nantes ont formé et qui les force, ayant prêté serment, de quitter ainsi leur ouvrage pour se soutenir mutuellement contre les maîtres. J'ai cru devoir vous prévenir de cette émeute dans l'intérêt public, plus encore que dans le nôtre, et par crainte qu'elle ne s'étende ailleurs. Nous avons demandé que nos ouvriers nous donnent 8 jours pour les remplacer. Ils ont refusé et ont voulu nous quitter de suite. Leurs livrets sont encore entre nos mains. » Là, il part du livret ouvrier, hein. Monsieur Rochereau, directeur de notre imprimerie, rue Jean-Jacques Rousseau, en face de la veilleuse, est président, ou plutôt vice-président de la société typographique. Si vous le désirez, je vous enverrai l'adresse des autres déserteurs. Et d'ailleurs, il va le faire dès le lendemain. Il va dénoncer tout le monde. Voilà. Mais 48 heures plus tard, tout cela est oublié, si l'on en croit ce communiqué qui nous laisse penser que les chargés de communication d'aujourd'hui n'ont guère innové. Écoutez plutôt. Les difficultés survenues entre nous et nos ouvriers par le seul effet d'un malentendu sont aplanies et les travaux de nos ateliers ont repris une activité qui ne peut aller qu'en augmentant. Quelle était donc la nature du dit malentendu ? Eh bien, nouvellement embauchés, ignorant le tarif admis si difficilement par William Busseuil, les trois ouvriers licenciés avaient accepté des prix inférieurs à ceux pratiqués, puis, une fois mis au courant par les autres travailleurs, ou sous la pression de ceux-ci, si l'on en croit Busseuil et Mangin, qui traitent Renoux d'intrigants, hein, ils avaient tout simplement demandé à ce que leur salaire soit aligné sur celui des autres. Renoux, qui sort une nouvelle fois victorieux, en a fait une question de principe. Le tarif ne saurait être remis en cause unilatéralement. Et il se félicite que les typographes de l'imprimerie Mélinette aient apporté leur soutien aux grévistes, bien que non directement concernés par cette affaire. La semaine suivante, le préfet Duval reçoit enfin la réponse tant attendue du ministre Dargout, qui lui annonce que, l'affaire étant sérieuse, elle sera traitée par Adolphe Thiers en personne dans les jours suivants. Et en effet, Adolphe Thiers adresse au préfet une longue missive dans laquelle il expose le souhait de l'État de voir émerger des sociétés de secours, bien qu'il soit conscient que l'imprévoyance légendaire des gueux soit un obstacle à leur bon fonctionnement. Il souligne la nécessité de veiller à ce que les sociétés de bienfaisance n'embrassent pas quelque autre vue et ne soient en fait que le nouveau nom des corporations dissoutes depuis la loi Le Chapelier qui, je le rappelle, défend aux citoyens d'un même état ou profession de prendre des arrêtés, des délibérations ou des formes de règlement sur des prétendus intérêts communs. Dans le monde libéral de l'époque, et encore aujourd'hui, je vous rappelle, il n'y a pas de classe sociale, mais il y a l'État, incarnation de l'intérêt général, et des individus qui doivent poursuivre des buts individuels. Aux yeux de Thiers, l'association typographique nantaise a pris la bienfaisance pour alibi, sans quoi il n'a pas tort. Faut-il alors l'interdire ? En toute cohérence, il le faudrait. Mais pourtant, Thiers répond qu'il revient au préfet de voir, à partir du contexte local, ce qui pourrait être le plus opportun. Entre guillemets, il renvoie la patate chaude au niveau local. Duval se retourne alors vers le maire, qui lui-même informe les typographes des très très fortes réticences gouvernementales. Espère-t-il les voir rebrousser chemin, abandonner cet article attentatoire à la liberté du commerce et donc aux droits de l'homme ? Vous l'avez noté, la réécriture de cet article dans les statuts de 1835 est certes plus subtile, mais elle ne gomme en rien le fait que les typographes entendent collectivement peser sur le devenir économique et social de leur corporation. Ils forment une société de résistance et non seulement une humble société philanthropique. Jugeant sans doute qu'il était plus dangereux pour l'ordre public d'interdire ce type de société, car l'interdiction pourrait pousser certains à la radicalisation, eh bien, maire et préfet choisissent de tolérer cette coalition ouvrière. Et ainsi, notre société typographique a traversé tous les régimes. Elle a fait partie des syndicats adhérents à la Bourse du Travail de Nantes dès 1893. Elle s'est ralliée à la Fédération du Livre CGT, elle a séparé ses activités de mutuelle et de résistance. En 1904, cette société, dont le siège était à la Bourse du Travail, comptait encore 166 membres participants, si l'on en croit l'affiche réalisée cette année-là, à la demande de la Fédération départementale de la Mutualité française, qui tient son 8e congrès national à Nantes, au théâtre de la Renaissance exactement. C'est un dénommé Le Tout qui vient d'en prendre la direction. Une vingtaine de militants l'avaient succédé à ce poste, ne restant en place souvent qu'une poignée d'années. Seuls les dénommés Suire et Grinsard y restent une décennie, 1846-1855 pour le premier, 1855-1866 pour le second. Il est à noter qu'aucun des militants nommés ici n'ont une notice dans un célèbre dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français qu'on appelle le Métron. Pour être honnête, Renou, dont on ignore jusqu'au prénom, n'a droit qu'à une maigre phrase rendant peu justice en fait à son engagement. Je vous la cite. Ouvrier imprimeur à Nantes, Loire-Inférieure, fondateur en 1833 de la Société typographique nantaise qui organisa plusieurs grèves, souvent suivies de succès. Avouons-le, c'est fort peu. Voilà, merci.